Bonjour, ici Radio Grand Ciel Châteaudun. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Galerne, qui est président de la Société d'Histoire de Bonneval. De Cloix, c'est pas au nord, c'est au sud de Châteaudun. Et qui s'est beaucoup intéressé à toute l'histoire locale et en particulier à notre poète Ronsard, qui est bien sûr, comme nous savons tous, Vendômois, surtout, mais quand même qui est passé en Pays du Nois. Et nous sommes très heureux d'entendre aujourd'hui Jean-Claude. Nous lui donnons la parole.
Oui, alors, Pierre de Ronsard, qui a donc un des plus grands poètes français, qui a marqué la Renaissance, est un petit peu du Nois. Alors on dit toujours, Ronsard et Vendômois, c'est vrai, il est né donc à Couture-sur-Loire le 11 septembre 1524, au château de la Poissonnière. Mais, par sa grand-mère, il est un peu du Nois. Jeanne Hillier des Radrés, elle est de la Basse-Jouë. Okay. Belle-sœur de Jean de Bourbon, gouverneur du Vendômois, c'est vrai. Elle va épouser Olivier de Ronsard en 1489. C'est la sœur de Mildilier, curé de Bonneval. Donc, on est bien au cœur du Dunois, là. Et Pierre de Ronsard, lorsqu'il viendra dans le pays Dunois, aura de nombreux amis. On oublie souvent que un de ses disciples était Jean Vaillant de Guélis, dont la pierre tombale est à Cogny. Et Ronsard, quand il passait à Châteaudun, rendait visite à son ami Jean Vaillant de Guélis. Également, Pierre de Ronsard a eu comme disciple et le même professeur que César Augustin Costet, qui a une rue à Châteaudun. Et César Augustin Costet est né dans le milieu du XVIe siècle, à Châteaudun. Et c'était un très proche de Ronsard, ils avaient le même professeur, donc qui était Jean Dora, qui était un helléniste absolument extraordinaire, et Pierre de Ronsard, à travers tout cela, avait des attaches. Et j'ajoute encore, lorsque Pierre de Ronsard viendra donc en Vendômois, puisqu'il fera souvent, on peut dire, le trajet entre le Vendômois et Paris, eh bien, Pierre de Ronsard va s'arrêter aux abbayes de Tiron et notamment le prieuré de Giron. Parce que le prieuré d'Iron fait partie de l'abbaye de Tiron. Et l'abbaye de Tiron a un des grands prieurs qui va s'appeler Louis de Crevant. Et la sœur de Pierre de Ronsard va épouser un cousin de Louis de Crevant. Donc il rentre complètement, Pierre de Ronsard, par sa sœur Louise, qui est âgée de 10 ans de plus que lui. Il va entrer complètement dans, on peut dire, l'abbaye de Tiron. Et ce Jean de Crevant est extrêmement important, puisque c'est lui qui va faire reconstruire le prieuré d'Iron tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, la municipalité de Cloix a fait de très gros efforts pour rénover ce bâtiment, mais il est dans l'état du début du XVIe siècle où Louis de Crevant l'a fait rénover. C'est un prieur extrêmement important, Louis de Crevant, pour Tiron, parce que si le frère du poète, Pierre de Ronsard, le frère, Charles va devenir prieur de Tiron. Il a aussi, on peut dire, des entrées grâce à la famille de Louis de Crevant. Famille très importante pour la rénovation de nos bâtiments régionaux. À Louis de Crevant, on doit notamment le prieuré de Bouche d'Aigre. Prieuré de Thion, extrêmement important. Puisqu'il faut savoir qu'au prieuré de Bouche d'Aigre, au moment des guerres de religion, il y avait une église qui faisait 60 mètres de long par 20 de large. Elle a été complètement ravagée au moment des guerres de religion. Il faut savoir également que c'est le père Jarnet qui, sous les ordres de Louis de Crevant, a rénové complètement l'abbaye de la Trinité à Vendôme. Donc cette famille de Crevant, alliée à la famille de Ronsard, va nous amener complètement au milieu du XVIe siècle, du Dunois au Vendômois ou du Vendômois au Dunois. Ronsard est complètement Dunois par ses attaches, qu'on le veuille ou non. On n'en parle pas assez. Alors, bien sûr, Pierre de Ronsard va naître dans cette, tout près de cette forêt de Gâtine, au château de la Poissonnière. Château encore remarquable aujourd'hui. Et Pierre va être élevé d'abord au château, mais ses parents et grands-parents ont joué un rôle déjà très important dans l'histoire de France. Parce que c'est le père de Ronsard, Louis de Ronsard, qui va accompagner les enfants de François Ier en Espagne lorsqu'ils sont prisonniers. Lorsque François Ier, après avoir, hélas, perdu la grande bataille de Pavie, va être prisonnier, lui qui n'a pas trop de scrupules, il va faire un marché en disant « Vous me libérez, mais je vous donne mes enfants prisonniers à la place ». Donc, c'est quand même un peu particulier, mais c'est un peu dans l'esprit du grand François Ier. Et le précepteur qui va les accompagner, c'est le père de Ronsard. Donc, il a déjà mis un pied dans l'histoire, Pierre de Ronsard. Qu'il le veuille ou non, même, on peut dire avant de naître, il est déjà dans l'histoire. Et donc, Ronsard va commencer son éducation, mais très rapidement. On va savoir, on va voir qu'à Couture-sur-Loire, on peut dire, les structures ne permettent pas trop l'étude. Et donc, on va l'envoyer faire ses études à Paris. Il est tout jeune, puisqu'il va avoir 9 ans, et il va partir faire ses études à Paris, et notamment au collège à Paris, dans un collège qui va être le collège de Boncourt, et qui va être aujourd'hui à peu près à l'emplacement de l'école polytechnique sur la montagne Sainte-Geneviève, à peu près là. Donc c'est là qu'Ronsard va faire ses études et qu'il va se lier donc, avec des personnages extrêmement importants. Il va rencontrer, donc, évidemment, toute la famille royale, puisque le père est donc gentilhomme de la cour, et on va le charger d'une mission extrêmement importante. On va l'envoyer comme petit page de Madeleine de France, qui va épouser Jacques V d'Écosse. Et on va l'envoyer comme petit page en Écosse. Il a 10 ans, le gamin. Il part en Écosse. Donc, il est parti, mais au bout de quelques mois, il doit revenir en France, parce que Madeleine va mourir, Madeleine de France. Et il se passe là une autre chose extrêmement importante. Le roi François Ier décide de marier un petit peu ce Jacques V. Il faut qu'on lui trouve une femme et il faut qu'on ait une alliance avec l'Écosse. Comment va-t-on faire? Et il trouve quelqu'un, il a quelqu'un sous la main. Elle a refusé cette dame qui est Marie de Guise, dite de Lorraine, duchesse de Longueville, et par conséquent, son duché couvre la ville de Châteaudun. Il va donc décider, François Ier, d'essayer de rapprocher ou l'Angleterre ou l'Écosse du royaume de France à travers cette Marie de Guise. Et dans un premier temps, il va penser à la marier à Henri VIII. Et Henri VIII a pas une bonne réputation. Parce qu'il a déjà tranché la tête d'Anne Boleyn, il a répudié Catherine d'Aragon, tranché la tête d'Anne Boleyn, et notre duchesse de Longueville, de son château de Châteaudun, lui fait dire à Henri VIII, effectivement, je suis grande, mais je ne suis pas la personne qu'il vous faut, parce que je n'ai qu'un tout petit coup. Ça voulait dire en deux mots que la hache n'avait pas la place pour la trancher. Donc elle ne veut pas de Henri VIII. Alors François Ier est bien embêté, et comme ça, donc, Madeleine de France est décédée, il dit, ça y est, je vais la caser avec Jacques V d'Écosse. Elle est d'accord. Très bien. Le problème, Jacques V d'Écosse ne peut pas se déplacer. Donc, le mariage va se faire par procuration au château de Châteaudun. Donc, le mariage de Marie de Guise et de Jacques V d'Écosse se fait à Châteaudun. Il faut savoir quand même que cette Marie de Guise va jouer un rôle important dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir une fille avec Jacques V, et cette fille sera Marie Stuart. Et là, on entre vraiment du château de Châteaudun, où on signe par procuration un mariage avec Jacques V, on entre dans l'histoire, la grande histoire, avec Marie Stuart. C'est quand même quelque chose de prodigieux. Et Marie Stuart va être la reine d'Écosse et de France plus tard, mais la reine d'Écosse, la plus jeune qui va régner. Parce que lorsqu'elle va devenir reine d'Écosse, elle a 6 jours. Son papa vient de décéder, Jacques V, c'est en 1542, au mois de décembre. Elle a 6 jours lorsqu'elle devient reine d'Écosse. Et son destin est tel que elle va croiser tellement peu de temps Pierre de Ronsard, mais va le croiser. Et c'est que Ronsard était en Écosse. Alors Pierre de Ronsard va revenir en France. Il va perdre de vue la petite Marie. Après avoir appris l'anglais, il revient en France et il part pour une mission avec Laïf. Il va repartir pour une mission en Allemagne. Il va apprendre l'allemand. Si bien que Pierre de Ronsard va connaître donc évidemment le français, il parle anglais, il parle allemand, il fait des études de grec et de latin, et il va faire quelques voyages en Italie et il apprendra l'italien. Donc, il a une connaissance assez extraordinaire, Pierre de Ronsard. Donc, évidemment, il va être remarqué et il va vouloir étudier encore plus. Il va se rapprocher des grands maîtres du grec, donc Jean Dora, dont je parlais tout à l'heure, qui va être aussi le professeur de Augustin César Costet, notre Dunois. Donc, c'est extrêmement important de voir comment Ronsard va pouvoir, à travers sa culture, s'intégrer, et le roi, évidemment, va le repérer. Henri II va repérer Ronsard et va l'aider, on peut dire, à devenir le poète du roi. Ronsard, étant devenu justement ce poète, va fonder autour de lui la Pléiade. Au départ, la Brigade, elle va s'appeler la Pléiade, évidemment se rappelant de la Pléiade grecque. Donc on retrouve, à travers cette Pléiade, des gens extraordinaires. On va retrouver Joachim du Bellay, la famille du Bellay de Langeais, à côté de Cloyes, 6 kilomètres, où on raconte que cette famille a donné une maison à Rabelais. Et on parle encore dans le pays de la maison de Rabelais. Elle existe toujours. Donc cette famille de Langeais, qui sont les du Bellay, il y a Rémi Bello, il y a Baïf, il y a Dora, donc il y a Jamin. Donc la Pléiade, c'est tous ces poètes-là vont essayer de donner une nouvelle forme, on peut dire, de poésie à la France. Et peut-être que le XVIe siècle est un siècle aussi important pour la poésie que le siècle des Lumières. Peut-être aussi important. Parce que c'est là qu'on va avoir une autre approche de la poésie. C'est la poésie galante, c'est quelque chose de, qui doit toujours avoir une certaine élégance. Et Pierre de Ronsard va évidemment, à travers la cour, approcher tout l'environnement de Catherine de Médicis. Parce que Catherine de Médicis, c'est l'épouse d'Henri II. Alors si Henri II va mourir tragiquement en 1559 d'une lance qui va venir se planter dans son œil, et encore une lance qui n'est pas maniée par n'importe qui, elle est maniée par un monsieur qui va être obligé, hélas, après cet accident, de partir en Angleterre. Et il a un nom prédestiné, c'est Montgomery. Montgomery de Jaune, à côté de Beaugency. Et à partir de ce moment-là, la carrière de Ronsard va prendre un essor considérable. Parce que Henri II mourant, ses fils vont se rapprocher encore plus de Ronsard.
On est bien.
Nous allons maintenant faire une pause musicale.
Et mon ami
là, une chanson de François Zarbi. Tout à fait dans le contexte.
À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Nous venons donc d'écouter L'Aude à la Rose, chantée par Françoise Hardy. Et avec Jean-Claude, nous allons poursuivre notre itinéraire de Pierre de Ronsard en pays du Noix.
Alors justement, nous avons entendu L'Aude à la Rose, inspirer cette chanson de la Rose, inspirée de Ronsard, parce que Ronsard va être, s'il a la petite tonsure, va être un amoureux éperdu toute sa vie. Et il va être amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Cassandre. Et il va lui écrire justement cette ode à la rose qui a fait un des fleurons. Rappelons-nous, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclos sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette vépris et le teint au vôtre pareil. Las, las, voyez comme en peu d'espace elle a ses beautés laissées choir. Voyez ce que les roses durent d'espace d'un instant. Et Ronsard va être amoureux de cette jeune fille Cassandre Salviati, qui est de Talcy. Les parents donc sont des banquiers florentins, amis de Catherine de Médicis, qui habitent Talcy. Grande famille, puisque une des nièces de Cassandre Salviati sera la muse d'Agrippa d'Aubigny. Ronsard va rencontrer cette jeune fille à Blois en 1546. Donc il a un petit peu plus de 20 ans et Cassandre a 15 ans. Il va être subjugué par cette jeune fille et ça va être le grand amour de sa vie. Ça va le poursuivre toute sa vie. Il y aura des moments où, pour lui, ça sera moins bien. Pourquoi ? Parce qu'il a la petite tonsure. Et à cette époque, une jeune fille cherche à se marier. Et elle va se marier quelque temps plus tard avec le seigneur de Pré. Mais le seigneur de Pré va de temps en temps partir à la guerre et Ronsard essaiera de se rapprocher de Cassandre. Alors certains ont raconté que les amours platoniques de Ronsard et Cassandre ne s'étaient pas limités là. Il y a un magnifique ouvrage d'Henri Nognon qui dit que la belle Cassandre, un jour, serait venue jusqu'à la maison de la rue Saint-Jacques, où il y avait le lycée Ronsard à Vendôme, par le temps passé, à côté de la chapelle Saint-Jacques, et qu'elle serait venue dans cette maison rencontrer Ronsard dans les années 1552, et que il y aurait eu des rapports plus intimes entre notre Pierre de Ronsard et Cassandre. Et Jeanne Bourin, dans Les Amours blessés, va même nous dire que la petite Cassandre qui naîtra, Cassandre de Près, sera peut-être la fille de Pierre de Ronsard. Et, extraordinaire, cette Cassandre, la fille de Cassandre Salviati, épousera un de Musset. Et là, on franchit le pas, on dira l'ancêtre d'Alfred de Musset, c'était Ronsard. On se permet toutes les libertés. Et là, évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de test ADN et nous n'en savons rien. Ronsard va continuer donc à être amoureux toute sa vie. Et au fil des rencontres, il va succomber souvent. Il va rencontrer des jeunes femmes qu'il ne peut pas, qui sont inabordables pour lui. C'est pas possible. Il ne peut pas, il va rencontrer, par exemple, Marie Stuart, qui est revenue en France, qui a épousé donc François II, qui va être roi de France pendant un an, qui va mourir à Orléans. En 1560, en décembre 1560, il va rencontrer Marie Stuart. Et Marie Stuart, il l'aime bien, mais elle est reine de France. Donc on ne porte pas son regard sur la reine. C'est pas facile. Il va porter également son regard sur une demoiselle d'Estrée. Et une demoiselle d'Estrée qui est en famille donc avec Roberté d'Aluy. À lui, à côté de Bonneval. Donc là encore, on revient dans le Dunois. Donc, notre Ronsard, étant amoureux de la belle Astrée, va évidemment se faire un petit peu, non pas y conduire, mais on va le traiter un petit peu comme un diacre, la petite tonsure, mais bon, ça va un moment, mais pas trop longtemps, parce que, bon, on ne va pas s'encombrer d'un abbé, même poète du roi à l'époque. Alors, il va se retourner un jour, au cours d'une promenade, vers Marie d'Angevine. Si vous passez par Bourgueil, et si vous voyez un pin, c'est là que Marie est. Et donc, il va être amoureux de Marie. Encore une fois, il est toujours amoureux, Ronsard. Et les Marie Dupin, on n'a jamais retrouvé trace dans les archives de Marie Dupin, les généalogies sont cherchées, et donc il y avait une jeune femme qui était à Bourgueil et qui l'a beaucoup intéressé. Et il faut dire qu'il est à Bourgueil, pourquoi ? Parce que au fil des charges qu'il a eues, notre Pierre de Ronsard, il a eu le prieuré de Croisval, mais il avait le prieuré de Saint-Côme à Tours. Et lorsqu'il était prieur à Saint-Côme, bah, il se permettait quelques promenades. Alors, il allait jusqu'à Bourgueil. Et c'est de là qu'il est bon, y retourner plusieurs fois. Mais là encore, bon, c'est pas facile pour une jeune femme d'être amoureuse d'un monsieur qui est certes très bien de sa personne, mais qui a quand même une petite tonsure, quand même. Alors, c'est un petit peu embêtant. Ronsard va également aller voir du côté des escadrons volants de Catherine de Médicis. Là, cet escadron extraordinaire où il y a des jeunes femmes de très belles familles. Et contrairement à ce qu'on a dit, l'escadron volant de Catherine de Médicis, ce n'était pas un grand bazar. C'était quelque chose d'extrêmement strict. Catherine de Médicis voulait, avec son escadron volant, obtenir des informations, mais elle voulait une ligne exemplaire. Elle ne voulait pas que ces jeunes femmes obtiennent des renseignements dans des conditions un petit peu trop légères. Et d'ailleurs, si cela se produisait, elle prenait des sanctions immédiatement. Avec Henri IV notamment, qui a séduit une des filles de l'escadron, elle a envoyé la jeune femme au couvent. Catherine de Médicis ne badinait pas avec l'amour, c'est le moment de le dire. Alors, notre Pierre de Ronsard se dit, bon, j'ai été voir cette jeune femme, après il va en voir une autre, Marie Cabrian, et puis, avec Marie Cabrian, elle est inabordable, et puis en fin de compte, bon, elle est un petit peu légère. Alors, il a embêté notre Ronsard parce que elle va épouser un de ses amis, Philbert Leloyer de Lignerolles. Et puis, alors il lui écrit, quiconque peut ôter une jeune pucelle loin des bras de celui qui meurt pour l'amour d'elle, il se parle pour lui, il a le cœur de rocher, l'estomac de fer, et nulle pitié ne peut chauffer. Il dit, cet ami, la Lignerolles, il m'a enlevé ma belle. Et un peu perfide, quand même, pour Ronsard, cet homme qui a la petite, il lui dit, ma synope, mon cœur, quand une fille, prise par trop le mariage, elle est hors de propos, car un mari commande, tense, dit des mots, tous remplis de fureur, d'orgueil et de maîtrise, mais au contraire, un amant est humble et suppliant, pourquoi ne serais-je pas celui-là ? Donc il est quand même perfide par moment, Pierre de Ronsard. Alors, notre Pierre, il va continuer sa quête, mais il vieillit. Il vieillit. Et le dernier grand amour de Ronsard sera Hélène. Quand vous serez bien vieille, au soir la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, dirai chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez servante, oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne saille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre, et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Pierre de Ronsard est au crépuscule de sa vie. Il va partir de son prieuré de Croisval et aller mourir au prieuré de Saint-Côme le 27 décembre 1585. Il a 61 ans. Thank you.